Votre émission Regard sur le monde qui prend tout son titre avec une émission spéciale sur le réseau francophone en déficience sensorielle et en langage qui s'est tenu tout récemment à Longueuil, plus précisément à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et dans notre première émission, nous rencontrons Mme Sylvie Auclair de l'Institut Nazareth et Louis Braille ainsi que M. Gilles Corbeil qui est organisateur communautaire à l'INLB.
Coordonnatrice de réadaptation à déficience visuelle et en service spécialisé à l'Institut Nazareth et Louis Braille, bien sûr toujours dans le cadre de la rencontre du réseau francophone en déficience sensorielle et en langage. Bonjour Mme Auclair.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de venir à notre micro pour cette émission Regard sur le monde qui, dans le cadre du réseau francophone, a vraiment son titre, porte vraiment. Donc, l'Institut Nazareth Louis Braille est l'hôte cette année du réseau francophone en déficience sensorielle et en langage. Pourquoi un tel réseau dans votre milieu?
En fait, parce qu'à l'Institut Nazareth Louis Braille, on a la prétention, puis pas juste la prétention, mais d'être le chef de file en déficience visuelle ici en Amérique du Nord et au niveau du volet international. Notre place dans le réseau francophone a toute sa valeur. On va aller valider, dans le fond, toutes nos données probantes, nos pratiques. On va se comparer, se challenger, essayer de les dépasser, évidemment. On a la prétention qu'on en sait un petit peu plus que nos collègues pays du réseau francophone, mais ça reste entre nous. Ils ont quand même beaucoup de connaissances et d'informations à nous apporter dans notre pratique, là, quand même. Alors, ça a toute notre richesse, là, ça a toute cette valeur-là. En fait, vous savez, au Québec, on est un petit peu moins d'organisations qui sont membres du réseau francophone depuis la dernière réforme en 2015, ce qui fait qu'on s'est concerté les 5 établissements qui sont membres du réseau au Québec. Et pour toutes sortes de circonstances, on s'est partagé le volet hôte, mais évidemment, comme on occupe le plus grand volume en déficience visuelle au Québec, ça allait de soi que c'était ici qui allait venir le plus. On a le plus d'activités ici, mais il y en a aussi du côté de Sherbrooke, le CRE Lestrie. Il y a eu une journée et une journée au MAB Mackay, qui est un tout nouveau membre. Là, ça fait quelques mois qu'ils sont membres, donc ça va être vendredi demain. Et il y a eu lundi aussi un volet en déficience auditive du côté de l'IRD à Montréal, pendant que nous, on occupait toutes les autres journées en déficience visuelle. Comme on n'est pas en langage puis en audition, bien, ça allait de soi que nos collègues du réseau, bien, ceux qui sont membres au Québec, partageaient, mais 90%, oui, c'est nous, l'autre. Là, fait que ça a été toute une orchestration d'organiser des conférences à la hauteur de leurs attentes et aussi de nos attentes. Donc, comment on voulait rayonner dans nos nouvelles connaissances, nos savoirs, puis comment on voulait en recevoir pour voir, ils sont rendus où dans leurs connaissances, leurs pratiques dans les autres pays.
Justement, quels sont les commentaires que vous entendez? On parle de combien de personnes à ce congrès?
Au total, ils ont une délégation autour de 125 personnes, mais les 125 rayonnent à travers le Québec. Ils ne viennent pas tous aux mêmes conférences. Ils pouvaient s'inscrire à des journées plutôt qu'à d'autres. À travers aussi nos journées, on offrait de la formation, deux formations, une journée d'échange entière sur la thématique de la recherche. Le réseau francophone cherchait à savoir comment mettre sur pied une équipe de recherche proche de la clinique, des cliniciens, c'est ce qu'on réalise ici à l'Institut Nazareth Louis Braille. Leurs commentaires jusqu'à maintenant, là, ça dépasse leurs attentes. Là. Évidemment, ça demeure des commentaires verbaux que je reçois à tous les jours quand je les croise. Là. Je vais les rencontrer tout à l'heure à partir de midi, là, on est ensemble. Mais jusqu'à maintenant, là, c'est ça dépasse leurs attentes. Même si on a une semaine grise, un peu pluvieuse, froide, ils trouvent ça un petit peu froid, le Québec, eux, ils en ont plein les yeux, qui nous disent.
Est-ce que vous avez l'occasion de rencontrer différents pays avec mm-hmm. différentes approches? Est-ce que vous constatez une différence dans l'application des programmes de réhabilitation en déficience visuelle auprès des différents pays représentés?
Oui, c'est très variable. Il y a des pays qui sont moins, moins bien, je veux dire, nantis dans leur équipe de réadaptation, leur modèle. Chacun des pays a un modèle de, je veux dire, de services de santé différent du nôtre. Fait que ça, c'est vraiment des paradigmes tout à fait différents d'un pays à l'autre. Il faut comprendre. Ils essaient de comprendre comment ça fonctionne ici au Québec. Puis nous, on essaie, en contrepartie, de comprendre comment dans leur pays ça fonctionne. Ça nous paraît très compliqué dans le pays, mais quand ils nous écoutent parler, ils trouvent ça aussi très compliqué. Donc, dans la façon de délivrer les services, les équipes de réadaptation sont soit très petites, je pense au pays Haïti, en Martinique, c'est vraiment, ils sont très peu nombreux, tandis que dans d'autres pays comme la France, la Belgique, vraiment, ils ont une infrastructure plus nombreuse, plus répandue sur le territoire, mais à géométrie variable au niveau de la desserte, là. Fait que ça ressemble un peu au Québec, quand on le regarde sous cet angle-là, parce que INLB, près de la ville, on est beaucoup plus concentré. La même chose au Québec, mais quand on s'éloigne en périphérie, dans le Bas-Saint-Laurent, à Sept-Îles, en Gaspésie, bien, l'équipe de réadaptation, c'est 2-3 personnes. C'est pas beaucoup, alors qu'ici, on est près de 200. Ça fait que nous aussi, on a une géométrie variable, mais c'est comme ça aussi dans leur pays. Évidemment, je me faisais beaucoup questionner cette semaine, notamment sur notre programme de réadaptation à la conduite automobile. Ils n'ont pas ça dans les autres pays. Alors là, je disais, ouais, je sais, je ne peux pas aller me challenger, je ne peux pas demander à mon équipe de comparer nos données avec les vôtres pour voir notre modèle de réadaptation. Es-tu performant par rapport aux vôtres? Ils n'en ont pas. On est les seuls à avoir un programme de réadaptation à la conduite automobile. La même chose en implant rétinien. Les réseaux membres, ils n'ont pas l'implant rétinien. Donc, ils n'ont pas le modèle de réadaptation que nous, on offre ici à INLB. Fait que parfois, dans certaines sphères très spécifiques d'activités qu'on donne à réadaptation à INLB, je ne le retrouverai pas dans les autres pays qui sont membres. Puis dans d'autres domaines, notamment dans l'éclairage, la Suisse vient de joindre, là, Genève, la Suisse. Eux, ils sont avancés par rapport à leur pratique en éclairage. Alors là, j'ai hâte d'y rencontrer, parce qu'ils n'étaient pas dans la délégation, on a hâte d'y rencontrer pour pouvoir partager le modèle de réadaptation pour que nos cliniciens puissent être en contact et dire, bien, peut-être qu'on aurait intérêt à s'inspirer de leurs approches. C'est un peu ça l'objectif du réseau. Hein. Et quand ils sont en avance sur nous ou qu'ils ont des modèles de pratique différents, on peut se comparer et dire, bien, si c'est bon pour les usagers, les citoyens qui ont une perte de vision, bien, on peut essayer de l'appliquer pour les nôtres. Fait que c'est un peu ça, puis on fait ça. C'est un partage de connaissances.
Est-ce que vous remarquez des similitudes à travers tous les pays en termes de préoccupations fondamentales?
Oui, ça, par exemple, les diagnostics, les préoccupations face à l'acceptation, face aux avancées technologiques puis aux cellules souches, on a toutes les mêmes préoccupations. C'est partout la même chose, sauf que juste dans la pratique de base, il faut toujours avoir l'assurance que les situations de handicap, bien, on a travaillé pour les diminuer. Au niveau de l'accessibilité, Gilles pourra vous en reparler dans une prochaine entrevue, mais pour pouvoir comparer nos modèles en accessibilité dans les pays, c'est pas rien. On a tous les mêmes préoccupations de diminuer la situation d'handicap dans la société auprès de ces personnes-là. Ça, c'est vraiment universel et transversal.
Donc, il y a des problèmes qui sont identiques en Europe comme ici.
Oui, effectivement. Ça, vraiment, ça n'a pas de statut. C'est partout, c'est universel. Mais c'est sûr que si on a la chance d'avoir un centre de réadaptation qui offre des services plus généreux, plus variés, bien, le citoyen va en être davantage servi. Leur modèle en aide aussi, en prêt d'aide, c'est très différent de ici. Ici, nos professionnels, après évaluation puis situation des handicaps de nos usagers, peuvent attribuer des aides comme ça, en claquant des doigts, alors que dans ces pays-là, c'est très différent. Ça peut prendre une année avant qu'un usager ait accès à ces aides technologiques, ce qui n'est pas le cas des citoyens de l'Amérique du Nord, ce qui est vraiment un avantage dans notre modèle. Ils nous admirent aussi pour cet aspect-là. Ça facilite le travail de réadaptation.
Toujours en compagnie de Mme Sylvie Auclair, qui est coordonnatrice de réadaptation en déficience visuelle et en services spécialisés à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Sylvie, l'Institut Nazareth et Louis Braille a une réputation à l'échelle internationale. Peu de gens savent cette information. À quoi on attribue cette réputation enviable?
Bien, elle n'est pas attribuée à moi personnellement, je vais vous dire, là. L'Institut Nazareth a plus de 150 ans d'histoire, a bâti sa réputation bien avant moi, mais on garde cette réputation-là justement parce qu'on a une particularité à l'Institut Nazareth et Louis Braille, ne s'occuper que de la déficience visuelle. Une seule situation d'handicap, ce qui fait en sorte qu'on peut davantage peaufiner nos modèles d'intervention. On a une équipe de recherche, ce qui est aussi tout à notre honneur. Ça nous permet de conjuguer les problèmes qui sont rencontrés sur le terrain par les professionnels auprès des usagers, puis de pousser davantage soit des modèles de recherche, des modèles d'intervention clinique et pour le plus grand bénéfice de nos usagers. Ce qui fait qu'on fait des envieux au Québec, mais pas juste au Québec, en Amérique du Nord, la même chose. Puis du côté aussi du réseau francophone, c'est la même chose. Il y a des organisations qui ont cette mission-là unique, mais d'autres, c'est sensoriel au complet. Ils ont le langage, l'audition et la vision, ce qui n'est pas notre situation. Nous, on ne s'occupe que de la vision. Ça nous permet de toujours être en avant-gardiste là, dans nos pratiques, là, de rechercher la plus-value de chacune de nos interventions sur la planète en entier. On est aussi collé sur les États-Unis et souvent notre modèle d'intervention va être inspiré des États-Unis parce que si aux États-Unis, ils sortent une donnée probante ou bien un modèle où ils homologuent un médicament, un traitement ou une aide, ce qui fait que ça traverse plus facilement la frontière, c'est naturel au niveau de la géographie. Puis après ça, on peut, nous aussi, développer cette approche-là, ce qui fait que, puis on essaie d'aller plus loin toujours parce qu'on a l'honneur d'avoir juste la mission DV, déficience visuelle. C'est probablement pour ça qu'on arrive à garder notre réputation puis à être le chef de file en Amérique du Nord.
Je comprends donc que vous avez plusieurs collaborations partout au monde, oui. Au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de la réadaptation, par exemple, dans les modèles.
Dans les modèles, évidemment, on se tient au courant de ce qui se passe sur la planète. On est à l'affût. Et par le biais de la recherche ou de la présentation de nos projets innovants, de ce qu'on développe, on s'inscrit pour aller participer à travers le monde à ces conférences-là, à ces congrès-là. Donc, d'une part, quand on arrive à aller faire nos présentations qui sont presque toujours acceptées, bien, ça nous permet aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs puis de aussi montrer ce que nous, on fait. Après ça, ça fait en sorte qu'on est visité. Alors, on reçoit des visiteurs de la planète à l'année longue. Mais là, cette fois-ci, avec le réseau, c'est une grande délégation, là, mais ça, c'est nos cousins, c'est pas pareil.
Je veux parler de la recherche un petit peu. Est-ce que la recherche occupe une place importante dans le cadre du réseau francophone et de la semaine que vous avez vécue?
Oui, bien, parce que ici à l'Institut, on a une équipe de recherche, on fait des envieux. Et évidemment que nos collègues du réseau comprennent que la part de la recherche sur notre pouvoir d'intervention puis de développement d'intervention au niveau clinique, c'est majeur. Dans le fond, quand ils sont venus ici, ils nous ont demandé d'avoir une journée complète sur la thématique de la recherche pour savoir comment ça se passe, comment ça se vit au Québec, mais surtout dans notre organisation, puis comment mettre sur pied une équipe de recherche qui va... dans le fond, faciliter l'arrimage des situations réelles qui sont vécues par les intervenants, les professionnels cliniciens, pour pouvoir pousser le développement, mais par le biais de recherche. On a une petite équipe de recherche, mais on a beaucoup de projets de recherche qui sont en vigueur actuellement, puis par plein d'autres chercheurs à travers le monde là, qui participent à nos projets, fait que c'est assez florissant. Fait que la recherche a déjà un cœur important ici à l'Institut. Puis ça fait en sorte qu'ils nous entendent. Quand ils nous entendent parler, on parle toujours de la recherche. On la met en référence, la recherche, à chacune des modèles d'intervention qu'on partage avec le réseau. Mais ça fait en sorte qu'ils voient que c'est notre équipe de recherche qui travaille. On a l'infolettre de la recherche qu'on le diffuse aussi. Ils ont une grande curiosité, puis ils nous envient. Fait qu'ils voulaient mettre sur pied... en tout cas, ils essaient de copier notre modèle. Fait qu'on a eu une journée entière, là, puis ça, j'ai eu des commentaires de satisfaction sur les gens qui ont participé à cette journée-là.
À travers les autres participants, on a entendu parler du concept de courtage de connaissances.
On les a formés aussi. On les a offert une formation cette semaine de 2 jours sur le courtage des connaissances parce que la connaissance est super importante dans les approches cliniques, puis aussi dans le modèle de la recherche. Évidemment, les connaissances, ça vient avec la pratique, mais aussi la recherche et les données probantes. Alors, c'est comme, dans le fond, une façon de travailler puis d'aller chercher comment on fait nos recensions puis comment on va les baliser, puis aussi tout le volet éthique, comment ne pas faire de vol de propriété intellectuelle. Fait que c'est très, très large. Alors, on les a offert une formation de 2 jours par une agent de planification de programmation ici de la recherche, de notre équipe de recherche. On a dépassé le nombre d'admissions pour cette formation-là.
Qu'est-ce que ça apporte à Sylvie Auclair de participer à cette à ce réseau francophone, vous personnellement?
À moi personnellement? Pour moi, là, c'est une richesse de pouvoir partager, mais je partage deux volets. Il y a le volet au niveau plus de gestion-administration. J'ai une grande curiosité d'essayer de comprendre comment ça se vit un gestionnaire, une coordonnatrice ou similaire, parce que tout le monde, on a des titres et des vocables différents. Alors, comment eux, ils vivent pour me comparer? Dites-vous, ça ressemble à quoi dans vos milieux, votre rôle? Donc, j'ai cette curiosité-là, donc ça m'apporte aussi. C'est vraiment ressourçant. Puis l'autre, c'est au niveau plus, je suis à l'affût, je veux tout savoir, qu'est-ce qu'ils font pour aller chercher les données, les connaissances pour pouvoir m'en inspirer et les mettre ici en pratique, là, puis faire des projets. Là, j'en ai vu une couple, là, puis j'aimerais ça qu'on puisse développer, faire du copier-coller, nous aussi, pour la pratique des équipes de 0-100 ans ici à l'Institut Nazareth.
0-100 ans.
Oui, on a des gens quand même plusieurs centenaires, là, mais je dis 0-100 ans.
Jadis, on disait 0 à 77, ouais. Maintenant c'est maintenant. Jeune aujourd'hui.
Oui.
Alors, Mme Auclair, vous êtes à l'Institut depuis combien d'années?
Je suis ici depuis 2010. Alors, on arrive proche de 2019, donc je suis vraiment proche de 9 ans ici. J'ai été gestionnaire à l'équipe aînée Montréal-Laval avant, en janvier 2016, d'occuper le poste et les fonctions de la coordonnatrice de l'ensemble des services.
Qu'est-ce qui vous anime à tous les jours?
Qu'est-ce qui m'anime à tous les jours? Le pouvoir d'innover puis de développer avec les équipes des nouvelles approches, des pratiques qui vont avoir des retombées optimales auprès de nos usagers.
La clientèle de l'Institut, beaucoup de personnes âgées au niveau des aînés. Qu'est-ce que vous constatez au niveau du réseau de ce côté-là pour les personnes? Est-ce que dans les autres pays, ils ont cette même priorité, si je peux m'exprimer ainsi?
Je dirais, eux, ils appellent pas les aînés. Déjà, on n'a pas le même vocable. Ils les appellent les seniors. Alors, ils ont tous un volet senior qui, effectivement, c'est la même démographie qu'au Québec, là. Donc, dans les pays qui sont membres de la réseau, du réseau francophone, la démographie ressemble un petit peu. Donc, ils ont un plus grand volume, évidemment, des aînés. Mais je vous dirais que nos aînés sont plus choyés. Eux, les aînés, nous, ça commence à 65 ans. Eux, c'est pas nécessairement l'âge, mais un aîné qui vit des situations d'handicap avec une déficience visuelle dans les autres pays doit le démontrer et aura pas accès à un panier de services aussi bien nanti qu'ici à INLB au Québec. Alors, quand ils comparent notre programme, ils nous trouvent extrêmement choyés et chanceux. Ils veulent s'en inspirer, mais ça fait peur parce que le volume des aînés est plus important. Fait que de donner plus d'accès à des services en plus grand nombre, bien, ça peut faire peur au modèle de gestion et d'administration. Mais sinon, mis à part cette distinction-là, ils ont cette même préoccupation-là. Mais nous, on a un plus grand nombre parce qu'on commence à un âge. Nos programmes au Québec, ils sont par tranche d'âge, 0-24 ans, 24-64 et 65 ans et plus. C'est comme ça dans toute la trajectoire des services de santé, mais pas eux. Ils ont des modèles différents. Fait qu'eux, les aînés, c'est genre, ils me disaient 77 ans. Mais pourquoi vous arrêtez à 77 ans? Mais c'est comme eux, des aînés, les travailleurs travaillent plus longtemps. C'est pas pareil. Fait que nous, on était vraiment des critères d'âge, puis nos volumes sont plus importants.
Comme dernière question, parce que le temps file rapidement, en une phrase, vos impressions sur la semaine que vous venez de vivre?
C'est extrêmement enrichissant. Je vous dirais, je suis fatiguée là, le soir quand je me couche, mais c'est vraiment super excitant et challengeant. Je suis vraiment très, très contente d'avoir toute cette belle visite. C'est vraiment, ils sont de bonne humeur, ils sont ouverts, ils sont généreux et ils sont très satisfaits aussi. C'est vraiment enrichissant cette semaine.
Sylvie Auclair, coordonnatrice de réadaptation à déficience visuelle et en service spécialisé à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre que ce qui me manquait, c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Puis tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison, je remontais, parce que sans raison, j'allais devant, j'étais tout à l'envers, parce que ce qui me manquait, c'est apparent dedans. Je me sentais seul comme une rivière abandonnée par des enfants. Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin, sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler. Il y a pas longtemps, j'étais petit, me voilà jeune et plutôt grand, assez pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps. Alors voilà, je me décris dans une drôle de position, les yeux pochés et le bedon. La bière sera pas la solution. J'aimerais plutôt que cette chanson, puisque c'est de ma vie qu'il est question, finisse un soir dans ma maison sur un bel air d'accordéon. Puis les enfants, c'est pas vraiment, vraiment méchant. Ça peut mal faire de temps en temps. Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Mais une belle fin, cette chanson m'impose de dire ce que j'aurais dit si j'avais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes ennuis. Ben oui, j'allais pour me sauver vous dire comment faut être indépendant des sentiments de ce qu'on aime pour sauver le monde et ses problèmes. Qu'il fallait surtout pas pleurer, qu'à l'autre chanson je m'étais trompé, comme si l'amour pouvait m'empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Mais les héros, c'est pas gratis, ça se trompe jamais. C'est indépendant, la gloire paye pour les sacrifices, le pouvoir soulage leur tourment. Mais oui, c'est vous qui auriez pleuré avec ce que j'aurais composé. Mais c'est une manière de se faire aimer quand ce qu'on aime veulent pas marcher. Je les ai boudés, ils ont pas mordu. Je les ai quittés, ils ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu quand j'ai compris que je suis revenu. Pas mordu, je les ai quittés, ils ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu. Quand j'ai compris, je suis revenu. Quand j'ai compris que je faisais un très très grand détour pour aboutir seul dans un escalier, je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour.
De retour après la pause sur notre émission spéciale dans le cadre du Congrès international du réseau francophone en déficience sensorielle et en langage.
Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté enchanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre en chantant. La fleur au bout du fusil la victoire se gagne aussi en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin, en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent, en chantant. Quand j'irai revoir mon père, qui m'attend les bras ouverts, en chantant. J'aimerais que sur la terre, tous mes bons copains m'enterrent, en chantant. La mort, c'est plus marrant, c'est moins désespérant, en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons, en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires, en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps, en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con, en chanson.
Gilles Corbeil, organisateur communautaire à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Monsieur Corbeil, qu'est-ce que ça fait un organisateur communautaire à l'INLB?
Oui, je suis organisateur communautaire et je suis au service de soutien à la communauté. Donc, mon travail est de soutenir la communauté. Je travaille avec des partenaires, principalement, je vous dirais, au niveau de l'accessibilité. Donc, de faire connaître les réalités des personnes qui vivent avec une déficience visuelle, de connaître les impacts sur le quotidien et de voir avec eux quels obstacles les gens peuvent rencontrer et d'essayer de leur suggérer ou de trouver des solutions avec eux pour atténuer ces obstacles-là. On travaille beaucoup avec les municipalités en Montérégie, Montréal et Laval. Donc, c'est un très grand territoire. On est deux organisateurs communautaires à couvrir le territoire. Moi, je travaille avec 24 villes en Montérégie et la ville de Laval. Et en plus de siéger à une quinzaine de tables de concertation, personnes handicapées et personnes âgées. Donc, je fais le lien avec la communauté, je transmets de l'information et je vais aussi chercher de l'information qui pourrait être pertinente pour nos usagers. Donc, aux tables de concertation, par exemple, si un organisme ou sur un territoire se met en place un service en particulier qui pourrait répondre aux besoins de nos usagers, je vais transmettre l'information aux intervenants dans les programmes pour qu'eux puissent, au besoin, informer l'usager. Donc, j'ai un petit rôle de courroie de transmission. Toute la question de la sensibilisation aussi, et de transmettre de l'information. Donc, souvent, on travaille avec des gens qui ont beaucoup de compétences au niveau génie, au niveau informatique, au niveau des communications. Par contre, au niveau de connaître l'impact qu'une déficience visuelle peut avoir dans le quotidien d'une personne pour se déplacer dans une municipalité, bien, de mettre du mobilier contrastant, de garder un couloir vide de tous obstacles pour se déplacer. Ils vont aménager souvent de façon esthétique sans tenir compte des obstacles que ça peut créer. Donc, j'essaie de faire ce lien-là. Aussi, je supporte des collègues, là, s'il y a des besoins au niveau d'usagers en particulier, au niveau du transport, au niveau des loisirs, donc voir avec eux sur un territoire, parce qu'on s'entend qu'avec le territoire qu'on couvre, les intervenants qui sont très, très passionnés et très impliqués directement auprès de l'usager, des fois, en termes de temps, pour aller voir qu'est-ce qui se passe aussi à l'extérieur, y a-t-il des nouveaux organismes, y a-t-il des services, bien, je peux les soutenir et leur donner les informations à ce moment-là.
Services aux usagers?
On travaille, l'accessibilité universelle, ce n'est pas que déficience visuelle, c'est pour tous. Et on travaille en collaboration aussi avec d'autres partenaires de la santé, dont le CIS de la Montérégie-Ouest, où il y a le reste de la réadaptation. Donc, eux aussi ont développé au cours des dernières années un service de soutien à la communauté. Donc, on inclut déficience physique, déficience du langage, déficience auditive. Et nous, on s'inclut aussi là-dedans avec la déficience visuelle. Nous, on est là. Moi, je suis ici depuis 2005 et depuis 2005, c'est pas mal l'approche qu'on a pris d'aller travailler avec les villes. Et c'est un peu ça. Donc, les gens vont rencontrer des obstacles dans leur quotidien et d'arriver à trouver une façon d'atténuer les obstacles pour qu'ils puissent participer pleinement à la vie dans leur communauté. On travaille avec le processus de production du handicap qui inclut la personne, son environnement et ses habitudes de vie. Donc, en tenant compte, quand on regarde tout ça, on réalise rapidement que l'environnement a un impact majeur sur les habitudes de vie, sur la participation sociale. Juste aller faire l'épicerie, ça peut être complexe pour une personne qui a une déficience visuelle, parce que si elle doit s'y rendre en transport adapté, par exemple, elle doit réserver son transport. La plupart des endroits, c'est 24 à 48 heures d'avance. Déjà là, donc on réserve son transport. On ne sait pas comment on va filer le matin, s'il va pleuvoir à Sio. On prend le transport adapté. En transport adapté, on ne peut pas avoir plus qu'un sac. Donc, on peut ramener à la maison. Donc, si on fait une épicerie, il faut penser à l'épicerie qu'on fait. Il faut être le minimum une heure parce que ce n'est pas un aller-retour. Donc, si la personne a des courses à faire à l'épicerie et qu'une pharmacie, parce qu'elle a besoin d'aller chercher des médicaments qui est de l'autre côté de la rue, mais qu'il n'y a pas de feu sonore pour lui permettre de traverser, bien, elle va devoir une autre journée prendre un autre rendez-vous avec le transport adapté pour aller à l'épicerie. Aller, c'est-à-dire à la pharmacie. Rendu à l'épicerie, il faut avoir accès à l'information, les prix. On sait que dans les épiceries, ils vont déplacer souvent les choses, donc il faut se retrouver dans l'épicerie. Nous, on a accès aux circulaires assez facilement, aux différentes informations, donc les spéciaux, on les connaît. Pour la personne qui a une déficience visuelle, encore là, avoir accès à cette information-là, donc probablement que son épicerie va lui coûter plus cher que la mienne parce qu'elle va prendre le produit qui est là dans les pommes. S'il y a 12 sortes de pommes puis qu'il y en a une qui est à 99 sous mais que ce n'est pas bien affiché, bien, ça se peut qu'elle arrive au comptoir avec des pommes à 1,99. Et c'est toutes des réalités auxquelles on essaie de sensibiliser autant les commerçants que les municipalités parce que le transport est de responsabilité municipale dans la plupart des cas. Si la personne peut y aller à pied, si je parle de la pharmacie, mais si l'épicerie est de l'autre côté de la rue, mais je ne peux pas traverser. Je suis pratiquement obligé de prendre le transport adapté pour qu'il me traverse la rue. Il y a des endroits où c'est vraiment un peu ridicule, mais malheureusement, ça reste pour ça. Et la vie est faite pour les voyants, je vais dire ça comme ça. C'est facile pour nous de contourner un obstacle, juste des travaux qui sont faits sur un trottoir. Si moi, je me déplace, je vais aller dans la rue, je vais contourner l'obstacle et je vais continuer mon chemin. La personne qui a une déficience visuelle qui arrive devant un obstacle, si elle a une cécité totale ou même si elle a un chien guide, le chien guide va lui dire qu'il y a un obstacle, qu'il y a un danger. À partir de là, c'est à la personne de décider. Si elle décide d'aller dans la rue, elle se met en danger parce que la prochaine fois, peut-être que le chien va décider d'aller dans la rue. Et si la personne a une canne, il faut qu'elle devine qu'est-ce qu'il y a devant moi. Donc, sa journée peut-être va être de retourner à la maison et d'essayer de comprendre ou d'avoir un autre trajet, d'essayer d'avoir de l'aide parce que souvent, les mêmes trajets vont être utilisés pour se rendre à un endroit parce que c'est les plus accessibles et les plus sécuritaires. Mais si on ajoute des obstacles qui n'étaient pas là dans le présent, bien, c'est ça. Ils ont à vivre avec ça et ça change tout. Ça change vraiment toute la donne. Et d'arriver, quand on leur fait vivre, moi, souvent, je vais partir avec des élus ou encore des directeurs là, de différents services et on va les mettre en contexte. Là, quand ils sont sous bandeau avec des simulateurs et qu'ils doivent se retrouver dans des activités qu'ils font régulièrement, ils prennent conscience que, OK, c'est pas mal plus compliqué que simplement dire on va ajouter des contrastes, on va faire ça, on va mettre des beaux petits meubles et les trottoirs sont beaux, sont lisses. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça.
Monsieur Gilles Corbet, vous êtes organisateur communautaire depuis 2005.
Oui, effectivement.
Comment votre profession a évolué dans le temps depuis ces années?
Je vous dirais que versus les autres organisateurs communautaires, parce qu'il y en a dans le reste du réseau qui sont davantage dans les CIS, qui étaient dans les CLSC, moi, je suis arrivé ici, j'étais organisateur communautaire dans le réseau, je suis arrivé ici et j'ai eu la chance j'étais en garde partagée. J'avais deux chefs de programme, les deux programmes aînés, Montréal et Montérégie, et on m'a posé la question « Comment tu vois ton travail à l'Institut en lien avec la participation sociale des usagers et toute la question de la solidarisation? » Ça venait d'un agrément où les usagers faisaient référence en disant « Bien, au niveau de la solidarisation, donc de se voir entre nous, notre implication, notre participation, on a des lacunes et on aimerait que l'Institut intervienne à ce niveau-là. » Donc, on m'a, je vous dirais, donner un peu carte blanche pour avancer mes pions. Et c'est là que l'avenue de travailler avec les, les municipalités est arrivé. Et donc, mon travail a un peu changé versus ce que je faisais, étant donné que dans les milieux communautaires, dans les CIS, dans les CLSC, le travail est plus avec les organismes communautaires du milieu pour amener l'information, donc, vers le patron qui est le CIS. Ici, je suis un peu entre les deux. Donc, je vois ce qui se fait, je rencontre mes collègues qui ont une expertise, qui ont développé une expérience, ils connaissent le côté fonctionnel du handicap. Et donc, ça me permet, moi, d'arriver et de voir, de travailler avec les partenaires qui ont des bonnes idées parfois. Ils font un aménagement, mais ce n'est pas fonctionnel. Ils utilisent un outil quelconque, mais étant donné qu'ils ne l'installent pas convenablement ou ne l'utilisent pas aux fins auxquelles il est prévu, bien, ça va créer un obstacle. Donc, ça m'a amené à travailler encore plus et à voir qu'il fallait travailler en équipe et utiliser le réseau de la santé versus l'inverse qui est un peu de mes collègues qui, eux, travaillent avec le communautaire et qui vont monter l'information vers le réseau. Moi, je travaille avec mes collègues du réseau pour amener ça vers le milieu. Donc, c'est une approche qui est un peu différente, mais j'adore ça. Là. C'est clair que je trouve que ça a des impacts.
C'est quoi? Est-ce que vous avez une bonne collaboration avec les municipalités, par exemple, ou s'il y a un travail...
C'est sûr qu'on n'est pas un organisme de défense de droit. Donc, j'établis des liens de collaboration et on va tenter de voir, parce que l'idéal est des fois difficile à atteindre. Donc, et ça, avec le temps, ils ont compris qu'on était là pour les soutenir. Au début, c'est clair qu'ils nous voyaient comme une menace parce que pour eux, l'accessibilité universelle, ça coûte plus cher. Et c'est pas le cas. Ça coûte plus cher de défaire pour refaire que au départ, bien le faire. Et des fois, c'est juste un choix de couleur qui fait la différence, là. Donc, on s'entend que ça peut être pas si complexe pour la déficience visuelle. C'est sûr que le fait que de n'être que déficience visuelle, on est une petite goutte hein, au niveau des personnes qui ont des handicaps. C'est pour ça que de travailler avec l'Ouest, qui, eux, couvrent toute déficience, qui ont une masse beaucoup plus importante, bien, ça permet aussi encore là d'atténuer ou d'avoir une écoute qui est plus grande. Parce que déficience visuelle, quand on leur parle, souvent, ils vont nous dire... parce qu'on fait toute la Montérégie, hein, il y a des grosses et des petites municipalités. Dans certains cas, ils vont nous dire, bien, on a une personne handicapée, on la connaît, ça a besoin d'aide, on va aller la chercher, c'est pas grave. Et là, de leur expliquer que nous, ce qu'on prône, c'est l'autonomie. Donc, on veut que la personne puisse faire ses propres choix. Et si elle a envie de se déplacer ou de faire des activités dans la municipalité, qu'elle puisse le faire. Et là, de travailler avec eux. Mais je vous dirais qu'il y a de plus en plus d'ouverture. C'est sûr que la loi, au niveau des personnes handicapées, à part entière, bon, la loi ici, c'est depuis 75 environ, 75-78, au niveau des personnes handicapées. Elle a été revue en 2004-2005, mais c'est une loi qui est basée sur des moyens et non pas sur des résultats. Donc, il y a des beaux moyens. Comme je vous dis, je sensibilise, je rencontre, on nous envoie des plans, des fois à l'avance, d'aménagement urbain, de bâtiment pour avoir notre avis. On commente ces plans-là, on travaille beaucoup. J'ai des collègues qui travaillent beaucoup sur ces documents-là. Une fois que c'est fait, bien, ça leur appartient. Ils n'ont pas d'obligation de résultat. Donc, ils font la démarche, ils démontrent qu'ils ont fait un plan d'action, qu'ils ont fait des efforts, mais rendu au bout... C'est pas rare que ça va prendre 5 ans avant qu'il y ait quelque chose, parce qu'ils sont sur des plans triennales aussi. Bon, on parle des villes, là. Donc, les budgets sont votés sur 3 ans. Donc, si on n'a pas le bon timing, malheureusement, ça peut être très long.
Gilles Corbeil, on vous garde avec nous parce qu'on veut parler du stage que vous avez fait dans le cadre, justement, du réseau francophone.
Avec plaisir.
Du petit bonheur jusqu'autour de l'île, Félix a semé, tout a commencé. Vigneault a grandi avec mon pays. C'est en le chantant que les gens d'ici se sont reconnus, se sont retrouvés, un cœur dans la voix de nos chansonniers, car c'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Il y a dans les chansons beaucoup de leçons. C'est dans les leçons qu'on apprend à lire. Mais c'est dans le lit qu'on vit les chansons d'amour. Et c'est en l'amour qu'on fait des chansons. De feuilles de gui jusqu'au petit roi, Jean-Pierre a donné aux gens de chez moi l'espoir d'arriver juste un peu plus loin. On y sera demain en quelques refrains. Et tous les bozos, bozos les culottes, auront bien grandi grâce à quelques notes, car c'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Il y a dans les chansons beaucoup de leçons. C'est dans les leçons qu'on apprend à lire. Mais c'est dans le lit qu'on vit les chansons d'amour. Et c'est en amour qu'on fait des chansons. Oui, c'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Il y a dans les chansons beaucoup de leçons. C'est dans les leçons qu'on apprend à lire. Mais c'est dans le lit qu'on vit les chansons d'amour. Et c'est en amour qu'on fait des chansons.
Et c'est en amour.
Gilles Corbeil, organisateur communautaire à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Monsieur Corbeil, dans le cadre justement du réseau francophone, vous avez fait un stage. Quelle était cette expérience?
Ce fut vraiment apprécié et je me considère très privilégié d'avoir pu faire ce stage-là. Mon objectif, c'était d'aller voir, bon, je travaille au niveau du partenariat, les liens avec les différents partenaires. Comme je vous disais, la loi est différente ici en France. En France, ils ont un objectif, ils doivent obtenir des résultats. Sinon, des amendes sont prévues. La loi était beaucoup plus sévère. C'est à peu près dans les mêmes dates, mais eux, en 2005, théoriquement, les organismes publics ou recevant du public avaient 10 ans pour se mettre aux normes au niveau de l'accessibilité. C'était pas réaliste. Ils ont prolongé, mais en théorie, au bout des 10 ans, il y avait des amendes de prévues. Ou encore au niveau de l'emploi, les organisations là-bas, s'ils n'embauchent pas un certain nombre de personnes handicapées, ont des taxes supplémentaires à payer. Ici, on subventionne des entreprises pour qu'ils accueillent des personnes handicapées. Fait que je me demandais comment, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Je me disais, bien, c'est intéressant, tu sais, quand même, d'avoir le côté contraignant de la loi peut-être plus d'effet. Donc, je partais de ces prémices-là. Et aussi, la question, c'était comment les intervenants intègrent tout le côté environnemental dans le plan d'intervention. Parce qu'on sait que, bon, architecturalement, il y a tout que des défis comparativement ici, là, à aménager des lieux accessibles, ça peut être un petit peu plus complexe. Ou encore, un exemple que j'ai vécu là-bas, qu'on ne vit pas ici, les trottoirs sont très étroits et les fenêtres ont des battants. Donc, un battant qui est sur le trottoir, si la personne s'en vient avec sa canne, elle ne détectera pas avec sa canne et va le prendre en plein front. Ici, on n'a pas cette réalité-là parce que ça ne fait pas partie, l'environnement ne nous permet pas ça. Donc, il y a plein de détails. C'est vraiment, je me disais, il y a un côté intéressant à la contrainte là-bas que nous, on n'a pas. Rendu sur place, c'était un peu particulier de voir comment, je vous disais, les entreprises, eux, préfèrent payer la taxe que d'embaucher, finalement, des personnes handicapées. Là, tu fais comme, ah, OK, il y a une contrainte, mais ça ne leur dérange pas. Les municipalités qui ont des aménagements à faire ou les commerces, les font, mais le font dans un contexte d'obligation, mais sans consulter. Donc, le milieu est beaucoup moins impliqué que nous, et les gens qui sont consultés, c'est souvent une personne dans la commune qui a, souvent par accident, soudainement, où j'étais, c'était une personne qui était un journaliste, qui était impliqué en santé, il était au conseil d'administration de l'hôpital, donc c'était quelqu'un qui était très connu, qui soudainement a une perte de vision. Et il se référait à lui pour avoir des recommandations plutôt que de se référer au centre de réadaptation qui est là, qui a développé une expertise, qui connaît les outils, qui connaît ce qu'ils enseignent aux gens. Donc, quand la personne se déplace, si on lui a enseigné à contourner un obstacle, comment il le fait, comment on peut mettre des choses en place. Et là, j'ai réalisé que, puis un exemple, je suis passé sur une rue, un commerçant est en train de réaménager sa devanture et j'ai remarqué rapidement qu'il y avait quelques petits détails qui n'étaient peut-être pas au niveau de l'accessibilité universelle. Un, sa terrasse empiétait sur le trottoir énormément, n'était pas contrastante. Et la porte, il avait installé une nouvelle rampe et la porte ouvrait dans la rampe. Et donc, j'ai été voir le commerçant qui est en train de faire ses travaux pour lui dire, vous vous mettez aux normes, pour quelle raison? Il dit, j'ai pas le choix, sinon je ne peux pas réouvrir mon commerce. Là, j'ai dit, qui vous a conseillé au niveau des aménagements? Et là, je lui ai fait remarquer les petits détails que j'avais remarqués. Et là, un peu surpris, il m'a dit, ben j'ai montré mon plan au responsable de la commune. Il l'a accepté, puis il m'a dit que c'était correct. Donc, il y a une contrainte, mais au niveau de la supervision, au niveau des aménagements, on dirait qu'il y a des choses qui sont faites qui vont mettre les gens en danger. Un carrefour giratoire avec des feux sonores, où les feux sonores sont seulement sur la sortie des véhicules. Je ne sais pas si ça donne une idée, là. Les véhicules s'arrêtent quand on actionne le feu, mais les véhicules qui rentrent dans le carrefour giratoire n'ont pas à s'arrêter. Donc, si moi, je m'engage pour traverser parce que le feu sonore est enclenché, donc je me dis que j'ai le droit de traverser, eux, ils le connaissent, mais disons un touriste québécois qui arrive là-bas, qui fait fonctionner le feu, pour lui, la circulation est immobilisée. Donc, il va s'engager dans l'intersection et il met sa vie en danger. Donc, les lois différentes, plus de contraintes, moins de contraintes, mais les résultats sont un peu... Il n'y a pas un côté idéal. C'est ça que j'ai bien aimé. Ça m'a obligé à passer à l'extérieur du cadre et d'échanger avec les gens là-bas qui, eux, étaient très intéressés à notre approche parce qu'ils n'ont pas cette écoute-là ni de la part des autres organismes de défense de droits, ni des municipalités, ni là-bas, ils ont en place, c'est les maisons des personnes handicapées qui ont été mises en place avec la loi et tout passe par eux. Donc, une personne qui veut avoir des services va envoyer toute sa documentation à cet organisme-là qui, après ça, va, entre guillemets, sous-traiter vers les associations qui offrent les services de réadaptation. Et malgré tout ça, il voit des lacunes. Et là, il était sûr que de notre côté, ça fonctionnait très bien. Et là, on a pu échanger pour dire, ben non, finalement, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Et ça nous oblige, comme je vous dis, à penser à l'extérieur du cadre et à dire, ben le monde idéal n'existe pas, mais... Est-ce qu'on peut combiner des choses? Il y a des choses intéressantes qui sont faites là-bas, il y a des choses intéressantes qu'on fait ici, mais il y a une espèce de jumelage qu'il va falloir faire. Je n'aurais pas eu ces informations-là si je ne m'étais pas présenté là-bas. Si je me base simplement sur les écrits, sur les best practices, tu vas dire, ah, ce qui se fait là, c'est intéressant, on va l'appliquer ici. Non, ça se fait là-bas, mais il y a des contraintes autant là-bas. Puis dans une région, ça peut très bien fonctionner, et dans une autre... Donc, c'est très différent d'un endroit à l'autre. Et de le prendre simplement, juste la théorie, pour moi, n'aurait pas été suffisant. Je serais parti avec une théorie, puis j'aurais été biaisé. J'aurais voulu appliquer ça ici, puis ça n'aurait pas plus fonctionné.
Est-ce qu'il y a une chose que vous avez appris là-bas, que vous avez appliquée ici?
Honnêtement, j'arrivais avec... je pense que j'ai donné beaucoup. J'ai beaucoup partagé. Ce que j'en retire et ce que j'ai appris, c'est que peu importe où on est, que ce soit là-bas ou ici, les intervenants sont passionnés. Ça, c'était clair pour moi. Mon premier coup de cœur, c'est vraiment la passion que les gens ont pour leur travail. Ils étaient tellement disponibles. Ils m'ont fait visiter parce que j'étais dans un pôle, mais j'ai pu rencontrer toutes les associations, autant au niveau du travail, de l'intégration, de l'interne, ça a été vraiment... Donc, oui, les gens qui travaillent dans ce milieu-là, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui sont curieux et ils veulent en faire plus parce qu'ils me posaient tellement de questions. Et l'inverse, moi aussi, je posais des questions et là, c'est ça, je pense que sur ce point-là, on est vraiment... on se ressemble beaucoup. J'étais dans la région de Bordeaux, donc à Mont-de-Marsan, le Pôle des Landes, qui est une association. Les associations sont regroupées par territoire et c'est l'IRSA qui était la maison mère et qui a différents pôles de services, un pôle en déficience sensorielle.
Monsieur Corbeil, on sent beaucoup de passion dans ce que vous faites dans votre métier. Qu'est-ce qui vous stimule jour après jour?
Le défi. Je pense qu'il y a des obstacles qui sont encore là. Je rencontre des obstacles en tentant d'atténuer ces obstacles-là. Et je pense que c'est ça. Moi, je travaille à plus avoir de travail. La journée où tout va bien aller, ça va être pour moi mission accomplie. Je pense que j'en ai encore pour un petit bout. Mais c'est vraiment ça, de voir qu'il y a encore des incompréhensions, qu'il y a encore des injustices, que les gens ne peuvent pas, comme monsieur et madame tout le monde, je le disais tantôt, simplement faire son épicerie. Pour moi, c'est aberrant. Et je me dis... Puis comme centre de réadaptation, on a une expertise hors du commun. Il faut partager cette expertise-là. Il faut réunir. Puis il y a tellement de gens actuellement qui... L'accessibilité universelle est un... tout le monde trouve ça intéressant et plein de monde développe plein d'outils et plein de façons de faire avec leurs biais, je dirais. Nous, c'était déficience visuelle, mais on a quand même passé par-dessus ça et on s'est joint à un autre centre de réadap qui fait toute déficience. Donc, on a une approche. Maintenant, on fait des évaluations en commun. Donc, c'est vraiment d'arriver à réunir tout ça et d'avoir une espèce de normalisation, une démocratisation de l'accessibilité universelle, je veux dire ça comme ça.
Comment?
Avant de faire mon stage, je n'en étais pas tellement conscient. Je dirais ça comme ça, parce qu'on est dans le quotidien. Hein, on fait ce qu'on a à faire, puis un moment donné, on prend un rythme, puis on est bien là-dedans. Le fait d'aller faire mon stage, de creuser un petit peu plus, ça m'a obligé, d'un, à creuser davantage pour me préparer à mon stage. Et là, je les ai rencontrés là, cette semaine. J'en ai rencontré quelques-uns. Et je pense que c'est vraiment super important. Il faudrait avoir plus souvent, permettre ces échanges-là, d'aller... Tu sais, c'est quand même, j'ai peut-être passé un 10 jours là-bas, loin de mes contacts, loin de... Ici, ça va bien, je connais des gens, ça va assez bien pour aller chercher de l'information et faire avancer des choses. Là-bas, je collaborais avec eux et là, c'est vraiment... Tu te dis, OK, il y a des choses que je dois encore travailler. Tu sais, ici, je suis bien dans ma zone. Là, je vais retravailler d'autres petites choses. Je vais aller un petit peu chercher plus d'informations. J'ai besoin peut-être de cours dans telle chose. Fait que, oui, je pense que ça nous amène là, à réfléchir sur notre profession. Et c'est toujours bien de prendre le temps de s'arrêter et d'y réfléchir.
Gilles Corbeil, organisateur communautaire à l'Institut Nazareth et du Braille. Merci infiniment de toutes ces précisions.
Plaisir.
C'est déjà tout pour notre première émission Regards sur le monde, émission spéciale dédiée au Congrès international du réseau francophone en déficience sensorielle et en langage qui s'est tenu à Longueuil tout dernièrement. La semaine prochaine, on parle avec des gens de Bruxelles, également de la France.